Bonjour à tous. Je vous invite à prendre Apocalypse 14, les versets 6 à 7. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte : Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Amen.
Chers amis, frères et sœurs, je vous salue fraternellement Jésus. Content de voir tous vos sourires. Content aussi de pouvoir adorer avec ces chants. Ces personnes qui répètent et qui nous proposent de nous accompagner avec des instruments. Ça prend du temps et c'est une bénédiction. Content aussi de pouvoir adorer dans une chapelle qui est propre, qui est bien entretenue. C'est une bénédiction aussi. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui passent du temps à s'occuper de l'Église, à répéter, pour que nos cultes d'adoration soient toujours très agréables, n'est-ce pas ? Gloire à Dieu. Je suis donc content de me retrouver avec vous ce matin. Est-ce que je peux voir les mains de tous ceux qui sont contents d'avoir Jésus dans leur vie ? C'est magnifique. Est-ce que Dieu est bon ? Amen. Est-ce que je peux voir aussi les mains de tous ceux qui croient que le jugement qui vient est une bonne nouvelle ? Oui, c'est un petit peu plus hésitant, mais on y croit. Alors, quand j'ai appris cette nouvelle, pas le jugement, mais une autre nouvelle, c'était l'année dernière, ça m'a beaucoup interpellé. C'était le 21 novembre, et dans les journaux, il y avait l'histoire de Ricky Jackson, qui est un homme, un Américain, qui a été inculpé et condamné à la peine de mort en 1975. Vous en avez entendu parler ? Oui ? Condamné à mort en 1975 pour un crime odieux. Et en fait, l'année dernière, en 2014, il y a le juge qui, à la fin de son intervention, qui dit « L'État s'incline devant la force de l'évidence. Ils viennent de reconnaître que Ricky est innocent et qu'il a passé 39 années derrière les barreaux pour un crime qu'il n'a jamais commis. Comment ils en sont arrivés là ? C'est que le jeune homme, qui était le seul témoin du crime, qui avait 12 ans à l'époque, a reconnu avoir menti, et il avait menti parce que les policiers lui avaient mis la pression. Et 39 ans après, enfin un peu moins, il a reconnu qu'il avait menti, et donc la procédure s'est réengagée, qui a abouti à la libération de Ricky. 39 ans derrière les barreaux. Il a été condamné à 18 ans, et il est sorti à 57. Et en sortant, on lui demande « Écoutez Ricky, pouvez-vous nous dire quels sont vos sentiments ?» Et il paraissait vraiment libre de toute espèce de colère ou de rancune. Il a dit clairement qu'il n'en voulait pas à celui qu'il avait condamné par faux témoignage, et qu'il était content de pouvoir sortir. C'est quand même triste, à mon sens, de voir quelqu'un qui a perdu 39 années de sa vie, 15 000 nuits derrière les barreaux, pour quelque chose qu'il n'a pas commis. Ça, c'est le système judiciaire. Humain. Mais moi, ce matin, je souhaite que nous puissions réfléchir et ainsi être rempli de confiance et de joie face à un système judiciaire qui ne commet aucune erreur. Ça, c'est magnifique. Un système judiciaire dans lequel aucune personne n'est condamnée à tort. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Alors, bien sûr, l'idée du jugement induit des pensées comme l'injustice, donc ce qu'on vient de voir. Lorsqu'on parle de jugement, on pense aussi à des regards accusateurs. On pense à des sentiments d'ingérence, des gens qui se permettent de venir de notre vie privée et de fouiller. Il y a même un dicton qui dit que avoir des conclusions hâtives envers des personnes, c'est comme regarder à travers le trou d'une serrure. On n'en voit pas suffisamment pour arriver à une conclusion. Mais une fois qu'on a commencé à regarder, c'est difficile de s'arrêter. La critique, les sentiments de supériorité, les sentiments de suffisance, les pseudo-déductions basées sur les apparences ne sont pas légitimes, c'est un fait. D'ailleurs, le Seigneur nous encourage à ne pas juger. Matthieu 7, verset 1 nous dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » Mais toi, Romains 14, verset 10, « Pourquoi juges-tu ton frère ? » Ou toi, « Pourquoi méprises-tu ton frère ? » Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Toutefois, contrairement à ce que le monde pourrait faire croire, je pense notamment à Miley Cyrus qui nous dit dans ses chansons « Nobody can judge me, personne ne peut me juger », je crois quand même que la Bible envoie aussi un message qui nous indique que nous sommes responsables les uns des autres. Matthieu 18 nous dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le, entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Ézéchiel 33 nous dit aussi, « Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. J'ai donc une responsabilité. Nous sommes tous responsables les uns des autres, d'une certaine manière. Toutefois, nous ne jugeons pas. Nous sommes invités à ne pas juger, à ne pas avoir de conclusion les uns sur les autres. Alors le thème du jugement est une notion qui est particulière. Mais c'est quand même une réalité biblique. Le thème du jugement dans la Bible est aussi présent que celui du salut. Ce sont deux notions qui se suivent, qui avancent de la Genèse à l'Apocalypse ensemble. Ce sont deux sujets qui sont interdépendants. On peut dire que cela est dû au fait que ces notions, le salut, le jugement, correspondent au caractère de Dieu, miséricorde et justice. Ces notions-là méritent par conséquent un traitement minutieux dans notre réflexion personnelle, dans la manière dont nous allons aborder ces sujets-là. Ce sont des sujets qu'il ne faudrait pas aborder avec légèreté, mais auxquels il faut apporter tout le sérieux possible. Alors bien sûr, pourquoi le sujet du jugement est-il abordé dans la Bible ? Parce que, en évoquant ce sujet, on parle de la justice divine dans un monde pécheur, on parle de la résolution du conflit entre le bien et le mal, et donc la fin du péché, Et aussi, avec ce sujet du jugement, nous parlons de Dieu, de notre Dieu. Nous parlons de son caractère, de sa loi, de sa gouvernance. Nous parlons du caractère de Dieu dans l'esprit de toutes les créatures intelligentes, qu'elles soient fidèles ou perdues. C'est grâce à cette notion de jugement que la paix et la sécurité de l'univers sera assurée pour toujours. Et ça, c'est merveilleux. Le jugement est donc une part décisive de l'évangile éternel. Et c'est pour cela que dans ces versets que nous avons lus dans Apocalypse 14, juste après cet appel à reconnaître Dieu comme le Créateur, à lui rendre le culte qu'il mérite, à lui donner la place qu'il doit avoir dans ma vie, dans mon cœur. L'ange qui annonce nous dit « car l'heure de son jugement est venue ». L'heure du jugement de Dieu est venue. Alors, que nous dit la Bible sur cette notion du jugement ? Alors déjà, nous voyons dans le texte grec, que le terme jugement, juger, vient du verbe krino. Le substantif, le nom krisis, est aussi traduit par jugement. Krisis, on pense au mot crise. Le verbe krino signifie séparer, distinguer, discriminer, diviser, juger. Le mot crisis peut se traduire aussi par jugement, par décision. C'est un terme juridique, un terme qui est associé à l'idée de tribunal, de justice. Et c'est un terme qui peut prendre aussi le sens de condamner. Dans Jean 3, verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. On pourrait traduire, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il condamne le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Romains 2, verset 12, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés ou condamnés par la loi. Dans Apocalypse 14, verset 7, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement ou l'heure de sa décision est venue. Alors, quelle est notre compréhension, notre interprétation de ce thème du jugement, de la notion de jugement? Pourquoi pouvons-nous dire que nous pouvons regarder le jugement à venir qui a déjà commencé avec confiance, avec sérénité? Dans l'histoire, et le récit biblique nous le dit, il y a des interventions divines qui sont désignées comme étant des jugements. On pense à l'expulsion de nos premiers parents dehors de l'Éden. On pense aussi au déluge. On pense aux 10 plaies qui sont présentées comme des jugements. Le jugement dont je parle, celui dont il est fait question dans Apocalypse 14, c'est le jugement universel. Celui qui concerne tous les êtres humains. Nous tous. Nous tous. Dans la croyance fondamentale 24, nous lisons « Lors de son ascension, le Christ a inauguré son ministère de souverain sacrificateur dans le lieu saint du sanctuaire céleste. Antitype du tabernacle de l'ancienne dispensation. Comme dans le type, une instruction de jugement a commencé au moment où le Christ est entré dans le lieu très saint, dans la seconde phase de son ministère. Celui-ci étant figuré par le jour des expiations du service terrestre, dans le sanctuaire du désert. Cette instruction du jugement a commencé dans le sanctuaire céleste en 1844, au terme des 2300 soirées et matins. Et cette instruction, ce jugement, prendra fin à l'expiration du temps de grâce. Ça, c'est ce que nous croyons. C'est notre interprétation du jugement. Et c'est pour cela que nous, en tant qu'adventistes du septième jour, nous devons être confiants et sereins. Je le répète, confiants et sereins face à l'idée du jugement qui a commencé et qui se termine bientôt. Beaucoup de croyants ont peur du jugement. Ce n'est pas normal. Avoir peur du jugement signifie avoir peur de Dieu. Pouvons-nous dire que nous avons peur de notre Père? Le jugement final de Dieu est une réalité heureuse, une bonne nouvelle. Certains ont voulu présenter Dieu comme un tyran, quelqu'un qui prend plaisir à scruter la vie de ses créatures à la recherche d'une faute. Ce n'est ni le message de Jésus, ni celui des apôtres. Cette vision de Dieu est un fantasme. Dieu se présente comme un bon père. Un père bien meilleur envers les hommes, envers nous, que nous ne le serons jamais envers nos enfants. Notre Dieu est un bon père. Quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Une personne qui ne nous trahira pas. Quelqu'un qui ne nous ment pas. Quelqu'un de fidèle. Un bon père. Dieu n'a pas besoin qu'on lui explique ce que c'est que d'être miséricordieux. Dieu est grâce. Dieu est amour. D'où peut donc venir cette crainte d'un jugement divin ? Une crainte qui pousse certains dans le déni. Ah non, le jugement a déjà été fait, le jugement n'existe pas. Une crainte qui pousse d'autres vers des fausses doctrines.